Envoie la sauce bébé.
Je me souviens de la première fois que j'ai fait un plat avec 3 gousses d'ail et comme je croyais que la gousse c'était le truc entier, bah le résultat c'était chaud.
Je me souviens que quand ma mère partait faire un concert parce qu'elle chantait dans une chorale, mon père nous préparait toujours des frites maison et que c'était si bon que j'aurais bien aimé que ma mère chante plus souvent.
Je me souviens qu'il fallait allumer le four à 220 à 8h10 pour la quiche.
Je me souviens des patates au four de ma mamie qui fondaient dans la graisse pas vraiment lavée de ces 30 dernières années. Et le goût était si délicieux qu'avec mes cousins, on l'a mentionné à son enterrement.
Je me souviens la fois où j'ai failli tuer toute ma famille parce qu'en vacances, j'ai utilisé le four pour faire un gâteau. Mais c'était un four qui marchait au gaz et moi, je savais pas que ça existait, les fours qui marchent au gaz, alors je l'avais pas allumé.
Je me souviens de mes grandes périodes de stress en prépa. Je pouvais plus avaler que des pâtes carbo avec un peu trop de crème fraîche et c'est tellement associé que depuis, rien que de sentir cette crème fraîche-là, ça me donne la nausée.
Je me souviens vaguement du goût de la viande, je me souviens de pas finir mon steak haché, je me souviens qu'un jour j'ai plus voulu manger des petits oiseaux morts.
Mais t'as jamais mangé de moineau, c'est pas plus dégueu qu'un McDo.
Je me souviens de toutes les fois où mes potes ont pensé que mon dégoût du chèvre était un peu surjoué et toutes les fois où du coup je me suis précipitée aux toilettes.
Je me souviens de mon pelle-pomme, de mon appareil à chips, de ma passoire rétractable, de mon premier cuve-vapeur, de mon deuxième cuve-vapeur, de mon troisième cuve-vapeur. Ta gueule ou je te pèle la pomme.
Des pommes, des poires,
ça commence fort de Roquefort.
Miko The Night sent le graillon cette semaine. On va parler cuisine, livre de cuisine, film de cuisine, meurtre en cuisine, encore un petit coup du colonel Moutarde.
J'ai tué le respect avec un micro-ondes dans le petit salon.
Bonjour Claire Fégreux.
Hello, hello. Dit fond. Salut Jean-Jacques.
Salut mes petits cordons bleus.
C'est d'où ça vient cette expression d'ailleurs ?
Non mais je sais qu'Emmanuel Macron aime en manger.
Eh bien rien à voir avec Macron, ne vous en déplaise tous les deux. Le cordon bleu, c'était une distinction suprême dans l'aristocratie française il y a 5 siècles de cela. Un peu comme un écusson, si vous voulez, associé à la supériorité, à la grandeur de celui qui le portait. Et comme les cordons bleus, en fait une petite corde quoi. Et comme les cordons bleus se réunissaient régulièrement pour manger et picoler, l'expression fut liée à la nourriture. Mais c'est surtout à la fin du 19e, une journaliste, Marthe Distel, qui publie La cuisinière cordon bleu et elle ouvre des écoles du même nom et ça valorise l'art de vivre à la française. Donc rien à voir avec la dinde panée et les magnettes qui représentent les départements français. Tu les as eues ou pas ? Tu les as collectionnées ?
Je mange pas de ça.
Jamais ?
Non.
Ok. Ah ! L'art de vivre à la française. On rigole, mais c'est vrai qu'on est un pays un peu, beaucoup, beaucoup, beaucoup focus sur la bouffe. Notamment le temps que l'on passe à table. C'est même mal vu si vous la quittez un peu précipitamment, même enfant. Alors qu'ailleurs, au Japon par exemple, ils avalent leur déjeuner à une vitesse folle, tout en se parlant très peu. En fait, ils n'ont pas le temps. Et puis la conversation serait noyée par le bruit de la succion pour aspirer leur pâte au sein.
De la
succion.
Succion.
Ouais, voilà. Succion.
Okay.
Et plus près de nous, les Anglais, les Allemands, ils regardent notre pause déj d'une heure et demie, 2 heures avec étonnement, eux qui avalent un sandwich rapidement et qui mangent leur repas du soir très très tôt.
Ah, mais j'aimerais tellement manger à 18h. Je suis trop allemande dans ma façon de manger. En plus, j'adore la kartoffel salade.
Ich bin ein Berliner.
Nous, on est comme les Italiens. On se prend pour les rois du monde de la gastronomie, même si je crois que les Italiens gagnent, parce que dans n'importe quel pays, n'importe quelle ville, tu trouves des pâtes, des pizzas, et c'est moins vrai, on va pas se mentir, pour le bourguignon, pour la blanquette, pour le camembert ou pour le foie gras.
Oui, mais ils sont voleurs.
Bon, je dis ça, mais la France a commencé à être réputée pour sa cuisine à partir du Moyen-Âge, et encore plus à l'époque de Louis XIV, où le plaisir de la table est érigé en véritable religion.
Notre quiche qui aides aux cieux, que ton lardon soit sanctifié, que ta salade verte soit... Veuille... Putain, on a réussi à trouver le seul truc pour lequel je suis plus nulle que la cuisine.
Que ton règne vienne.
Non, merci. Hello, tu disais ?
Une véritable religion, donc. Aujourd'hui, la culture gastronomique française est inscrite, figure-toi, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est le premier pays au monde à avoir vu sa gastronomie inscrite à ce palmarès. L'UNESCO reconnaissant le caractère rituel et très présent dans la vie des Français du repas. Et aussi le fait que ce soit le cas dans n'importe laquelle de nos régions. L'UNESCO parlait aussi de l'art de dresser la table.
Coucher !
Pardon ?
Bah non, rien, je dresse la table.
J'ai envie de siffler, mais je sais pas faire.
De choisir de jolis couverts. En fait, je pense qu'ils avaient regardé un dîner plus que parfait avant de voter. Pour info, Macron aimerait bien, maintenant, que la baguette française fasse son entrée dans cette liste.
Si on vous dit du pain, vous avez déjà une idée. Si on vous dit du vin, vous avez tout de suite compris. Du pain, du vin, du boursin à Yeffin's Herbes. Si c'est tellement connu, c'est tout simplement parce que Boursin a su créer un très grand fromage.
CQFD, mon petit pote.
Et c'est vrai que c'est difficile de trouver un aussi bon pain ailleurs. Même si c'est encore plus dur de trouver un bon croissant à l'étranger. Parenthèse, mais pourquoi les croissants à la confiture et au chocolat en même temps? Pourquoi de la crème pâtissière à l'intérieur? Pourquoi le fromage à l'intérieur d'un croissant?
En même temps, dis la meuf qui vit dans un pays où on fait des croissants au beurre, c'est-à-dire du beurre au beurre.
Ouais, mais...
Mais, c'est bon.
Le pain, le fromage, on va pas se mentir, quand on vit à l'étranger, ce qui manque le plus, enfin moi en tout cas, c'est ce qui m'a manqué le plus, ce sont les habitudes alimentaires, les plats que l'on fait régulièrement, les repas doudous, on pourrait dire ça comme ça.
Ouais.
Cette facilité à se rassurer en connaissant les produits, les épices, cette capacité aussi à pouvoir boire un bon vin avec un bon repas, si vous avez envie. Et puis la spécialité des Français, c'est que non seulement ils prennent le temps de manger, de cuisiner aussi, surtout toi, hein, Claire, mais ils en parlent, nous en parlons beaucoup, tout le temps. Perso, la définition des vacances, c'est de manger en parlant du repas d'après. Et quelque part, est-ce que c'est pas ça la définition de se sentir français? Ce serait quelque chose comme avaler un croissant dégueu à l'étranger, se dire qu'il est dégueu, que vraiment les croissants français sont meilleurs, en parler toute la journée et revenir en France en passant directement à la boulangerie du coin.
Enfin, la cuisine française, après... Enfin, disons qu'heureusement qu'il faut pas la faire, la cuisine, pour obtenir ses papiers français. Sinon, certains d'entre nous seraient encore en train de se faire arracher ses couvertures dans un campement de fortune.
Et voilà de la purée mousseline.
Midi 43. J'ai faim. J'ai plus le choix. Je dois le faire. Me lever. Un pied devant l'autre. Y aller. Ne pas réfléchir. Prendre sur soi. J'en suis capable. Ou non? Si. J'ai vu ma mère le faire un jour. Est-ce que c'est à ma portée? Est-ce que si j'échoue, je perdrai le respect de mes parents? Ou pire, leur pognon? Quel pognon? Parce qu'entre le crédit d'une baraque de banlieue sur 40 piges et la Kangoo d'occasion, je suis pas sûre. Non, je m'éloigne. Je le sais. Ne pas oublier que je suis la nation française. Je donnerai tout pour ne pas me confronter à cette épreuve. Mais je suis debout, je saisis le sachet, il me regarde avec défi. C'est lui ou moi, oncle Benz ou moi. Il n'en restera qu'un. Ah ouais? Tu veux quoi? Que j'abandonne? Que je craque? Que je laisse tomber et je me jette désespérée dans un océan d'Allo Resto Deliveroo? Non, je suis plus forte. Je déchire le sachet sur 2 cm comme indiqué, j'attrape la porte. Clic, clac, on s'approche. Je le dépose, debout, 2 minutes, clic, à nous deux, clac, 2 minutes, ça tourne. C'est en train de fonctionner, j'ai même pas confondu avec le bouton décongélation. Dans 2 minutes, je serai une adulte fonctionnelle. J'ai repris confiance, j'arriverai même à verser mon sachet de riz micro-ondé dans une assiette. Je mérite la Légion d'honneur. C'est prêt. J'ai réussi. Merci.
Waouh.
Triste vie. Faut pas s'étonner que votre monde court à sa perte.
Il y a juste un tout petit truc qui m'a dérangé, si je peux me permettre.
Mmh.
Un micro-ondes.
Mmh.
Un appareil qui te lance des ondes dans la tête en permanence.
Mmh.
Bon, ok, c'est pratique. Surtout pour faire la béchamel extra vite. Ok, c'est petit. Ok, c'est rapide. Mais quand même, 2 trucs. Est-ce qu'on est vraiment obligé de se rajouter un appareil qui nous envoie des ondes dans le corps alors qu'on a déjà les plaques vitrocéramiques, le téléphone, internet ou la télé?
Attends, juste, alors qu'est-ce que t'entends par l'expression « faire de la béchamel » ?
Ben...
La béchamel, c'est pas un truc qui s'achète dans un petit pot en carton, à prévu ? Non, attends, je veux pas savoir. D'ailleurs, c'est valable aussi pour les ondes du micro-ondes. Je préfère ne pas savoir. Mais a priori, on n'a pas de preuve que ce soit vraiment nocif en termes d'ondes. C'est plutôt, en revanche, assez nocif, effectivement, en tant que truc qui te pousse à manger de la merde. Mais arrête de m'embêter avec mon micro-ondes.
Puis il y a l'odeur, non? Enfin, ok, c'est perso comme argument, mais dans les cantines ou les open space où t'as ton micro-ondes pour te réchauffer ta bouffe, je les trouve toujours immondes. Il y a toujours une odeur rance qui me donne envie de vomir. Enfin, vraiment, je ne comprends pas comment on peut se cuisiner des trucs dans un micro-ondes tous les jours.
Chouchoute.
Ok, bon, on a les noms des gens avec qui t'as bossé. Et encore, attends, je t'ai pas raconté cette histoire. Mais tu vois ce que c'est qu'une coupe menstruelle?
Oui.
Et ce que les gens veulent vraiment entendre, cette anecdote?
Eh ben, donc tous les mois, tu dois la faire bouillir pour la nettoyer. Et donc, tu peux la faire bouillir au micro-ondes. Et je connais une personne qui, n'ayant pas de micro-ondes à son domicile, comme toi, en fait, elle avait un micro-ondes seulement au travail, dans la salle commune du boulot. Donc, je te laisse imaginer les moments sympas. Vraie histoire. Et en même temps, au moins, avec un micro-ondes, ça a le mérite d'être vite fait. Tu vois, parce que sinon, l'option ramener ta casserole à cup dans ta coloc ou dans ta famille pour faire bouillir ta coupe menstruelle, je crois que je reste encore team micro-ondes.
Tu sais qu'il y a quelqu'un sur Twitter qui nous a dit la semaine dernière « Mais pourquoi dans chaque Mycose the Night, vous faites un point règle ?»
C'est vrai ça, pourquoi ? On n'a rien fait de mal à ce que je sache. Et ce que moi je vous parle des vidanges à faire tous les trois mois.
Et alors, pourquoi est-ce que dans chaque Mycose the Night, il y a un point règle ? Parce que c'est la vie ! Voilà.
Bon, on ne sera pas d'accord sur le micro-ondes. J'en tente un autre. Plutôt huile ou beurre pour cuisiner ?
J'ai été élevée à la margarine. Je crois que je ne peux pas répondre. Mais je sais que toi, tu es huile d'olive parce que je t'ai déjà vu cuisiner. Et il faut dire que quand on est freelance, faire la cuisine, ça revient vachement plus souvent. Mais du coup, pourquoi pas le beurre ?
Parce que mes parents cuisinaient au beurre, donc logiquement, j'aurais dû poursuivre la tradition. Puisque la manière dont cuisinent les parents détermine quand même grandement la façon dont vous cuisinez derrière.
Selon quelle source ?
Selon mon propre institut de sondage. Sauf que comme j'aime pas le beurre et que l'huile d'olive, c'est largement meilleur pour la santé, eh bien je suis team huile d'olive, tout simplement. Même si ma meuf cuit de plus en plus les aliments en mode vapeur, donc plus rien comme matière grasse.
Ouais, fais-moi penser à plus venir chez vous, du coup.
Moi, je veux bien venir.
Le point positif, c'est que si t'aimes pas le beurre, tu vas pas nous saouler avec le débat autour du beurre salé, quoi.
Non. Et sinon, t'es plutôt pâte ou patate ?
Je suis une adepte éternelle de Sainte-Marie de la patate. Je crois que j'appellerai mes enfants grenailles et petites frites. Tiens, en vrai, tu savais qu'au cimetière du Père-Lachaise à Paris, sur la tombe de Parmentier, qui est un type qui a fait connaître la patate à plein de monde au XVIIIe siècle, et ben, les gens déposent des pommes de terre. C'est vrai, sur sa tombe, il y a plein de pommes de terre. Voilà.
C'est un peu gâché, mais bon.
C'est gâché, mais c'est drôle. Moi, quand je serai morte aussi, je veux des patates sur ma tombe. Mais de la mayo aussi.
T'auras des croûtes de comté épices et tout.
Fais-moi penser à mourir avant toi.
Je t'y ferai penser. Enfin, en tout cas, tout sauf des endives cuites, de la vinaigrette allégée et un bouquin du docteur Ducon, là. Tu promets, hein ?
Promis. Ouais,
merci, parce que j'ai envie de dire quand même, les régimes, c'est plus ou moins comme Laurent Wauquiez, il faut rester vigilant. On sait jamais, tu vois. Un moment de faiblesse, un creux de la vague dans la vie, une rupture fastidieuse, des règles douloureuses et paf, c'est le drame, on peut être tenté d'y croire. Même moi. Alors attention, dans l'absolu, évidemment, on a le droit de vouloir perdre du poids si c'est ce qu'on souhaite pour soi, ou si on en a besoin, vraiment. Mais globalement, l'idée c'est que se priver de tout sauf des aliments qui riment avec léopard ou manger exclusivement des granolas ou sel de Garande pendant 6 semaines.
Et un peu de sucre en poudre.
C'est rarement une bonne solution long terme. La vraie solution. Ça consiste plutôt, généralement, à avoir une alimentation équilibrée, cohérente avec son propre corps. Et en même temps, ton propre corps, c'est pas celui de ton voisin. Et bon, c'est compliqué. Et encore, pour 1000 raisons pathologiques ou génétiques, pour certaines personnes, c'est hyper compliqué de perdre du poids. Donc, de deux choses l'une, les amis. Soit vous acceptez votre corps et dites-vous bien que c'est une bonne nouvelle parce que c'est devenu un acte militant d'aimer son corps. Parce que ouais, assumer son corps, c'est aider les autres à assumer le leur. Et quelque part, c'est empêcher des gamines de 14 ans de sombrer dans un truc quelque part entre le trouble alimentaire mortel et le syndrome dépressif léger noyé dans une addiction à énergie 12. Moi, je me trouverais sans doute plus jolie avec 10 kilos de moins. Mais j'ai aussi vu des gens qui n'ont pas passé loin d'enterrer. Alors peut-être un jour... J'aurai l'envie, j'aurai le temps, j'aurai le courage de le faire, de changer ma vie façon carotte râpée, de remettre la main sur mes baskets un peu trop neuves, de virer le sucre dans le café. Peut-être que je me ferai croire que je le fais pour moi, peut-être que ce sera vraiment le cas, peut-être pas, on verra. Mais en attendant, comme disait l'autre, j'aime la vie et les coquillettes, le musette et la bière, et c'est déjà ça.
Et l'autre option, c'était quoi ?
De.
Un.
Deux.
Bonsoir.
Quelle option ?
T'as dit. De deux choses l'une.
Ah oui, l'autre option c'est que au minimum, si vous faites un régime, faites un truc marrant à raconter. J'ai trouvé plein d'idées sur Wikipédia, par exemple être aphidiphage, c'est quand on se nourrit de pucerons.
Mais non.
Oui. Hématophage, c'est une entité qui se nourrit principalement de sang, comme le moustique, oh. Le fabricant de Tampax ou la famille Dassault. L'homo lucivore se nourrit de...
Eh bien, de mollusques.
Eh ben... Ouais, c'est probablement parce que j'ai oublié de mettre la réponse à cette question.
Un mollusivore, ou malacophage, est un animal carnivore, éventuellement saprophage, qui se nourrit surtout de mollusques.
Et tiens-toi bien, Elodie, le mycophage, ou mycétophage, se nourrit principalement de champignons.
Quand l'appétit va, tout va.
Mycose.
Et bah tu nous as bien donné faim, merci bien.
Mais
ce petit goût de champignons au sang.
C'est cadeau.
Avoir faim, cette sensation assez désagréable, hein, finalement, on va pas se mentir. Imaginez bien, une soirée un peu arrosée, on oublie toutes les règles de base, vous n'avez donc pas mangé. Vous rentrez chez vous, il est 23h30. Clairement, vous avez juste envie d'aller vous coucher sans passer par la case cuisine, ce que vous faites, et hop, réveil à 3h30 du mat, avec cette sensation de grand vide à l'intérieur de soi, qui fait mal sans que l'on se roule de douleur non plus. C'est un peu comme une crampe. En gros, c'est notre corps qui nous envoie des signaux d'alarme parce que l'on commence à avoir moins d'énergie. Le taux de glucose diminue dans le sang, le cerveau envoie un WhatsApp vénère aux récepteurs du système digestif qui gargouillent et qui progressivement vont monter en puissance. D'abord le petit gargouillis, puis progressivement, tant qu'on n'a pas obéi au cerveau et que l'on n'aura pas mangé, ça devient de plus en plus inquiétant comme grondement. Selon les gens, le message est plus ou moins vite perçu. Vous avez forcément autour de vous, comme Claire, des gens qui ne peuvent plus penser à autre chose une fois qu'ils ont faim.
J'ai faim.
Qui changent d'humeur en fonction de l'attitude de leur récepteur digestif.
J'ai faim. Quand j'ai faim, faut pas me parler, pas me regarder, pas m'approcher, pas me questionner, pas m'embrasser, pas me taquiner. Règle numéro 1.
Ok, on est sur une belle ambiance. Dès que notre estomac se remplit, dès que notre cerveau comprend que ça y est, pas besoin de manger plus, il envoie à nouveau un message pour nous dire d'arrêter de manger. Ça y est, c'est bon. Alors parfois, ce message est assez mal compris. Surtout quand vous avez un burger de qualité devant vous et que certes, vous n'avez plus faim, mais vous n'allez pas gâcher quand même. Bah non. Dans ce cas, vous êtes parti pour le fameux... J'ai un peu trop mangé là, je crois. Et une digestion compliquée.
Quand j'ai trop mangé, faut pas me parler, pas me regarder, pas m'approcher, pas me questionner, pas m'embrasser, pas me taquiner. Règle numéro 2.
C'est pour ça que tu manges souvent seul en fait.
Et comme pour le sommeil dont nous parlions il y a quelques semaines, la faim et la satiété... La satiété, oui,
La satiété, n'est-ce pas?
La faim et la satiété se règlent au même endroit du cerveau, d'où la facilité à se dérégler, à ce que l'équilibre ne soit pas parfait et que l'on mange trop ou pas assez, que l'on ait des troubles alimentaires.
Pour revenir à des trucs plus fun, qui dit cuisine dit livre de cuisine. Et quand même, depuis que Dieu a inventé le livre de cuisine, c'est un truc qui en dit beaucoup sur nous. J'ai une pensée pour tous ces bouquins des années 60 où des femmes au foyer extrêmement modernes, puisqu'en combi-pantalon, passaient leur après-midi de ménagère à moulinixer du légume triste sur une toile cirée en jacquard. À aujourd'hui, où les meilleures ventes sont trustées par les bouquins type Simplissime. C'est ça, les meilleures ventes, donc comment réussir un bœuf bourguignon en 6 secondes. C'est ça, les énormes cartons. Ça dit probablement quelque chose de l'évolution de nos connaissances en cuisine. Ça dit aussi quelque chose du fait que la Startup Nation n'a pas exactement comme objectif de nous laisser le temps d'avoir le temps. Tu vois, Nation française, si je suis nulle en cuisine, c'est juste que...
Tu ne m'as pas laissé le temps.
Toujours une bonne excuse.
Ce qui fait qu'en vrai, maintenant... Dès que j'épluche une carotte, j'ai l'impression de militer pour les droits humains et la justice sociale. Mais bref, revenons au bouquin de cuisine. Il existe quelques livres de recettes totalement improbables, par exemple le livre de recettes de Dracula.
Encore du sang.
Oui, mais j'étais très déçue, en fait, c'est pas du tout des recettes à base de sang. Très décevant, il donne juste des noms de vampires au plat.
Ah,
voilà. Mytho. En revanche, il y a un livre pour cuisiner foncedé, ce qui n'est pas recommandé, hein, mais cela dit, entre ça et cuisiner du sang, rouler jeunesse, j'ai envie de dire. Il existe également des livres de recettes à cuisiner dans sa voiture, mais... Attends, pas dans sa voiture, avec sa voiture. En gros, les Américains sont tellement américains qu'ils ont inventé un truc qui s'appelle le barbecue.
Mais non.
Donc moi, j'ai pas le permis, j'ai pas pu tester, mais le livre Manifold Destiny est un must du Engine Cooking. Ce qui est le fait qu'en fait, en gros, tu utilises le moteur de ta bagnole pour, par exemple, placer une petite papillote.
De lumière.
Hein ?
Papillote de lumière.
Et pire, car bien sûr, God bless America, tout ça, des types ont également réussi à cuire du bacon sur des armes à feu. Oui, c'est un AK-47, formidable. Vraie belle époque qu'on vit. Et en même temps, si tu crois que c'est ça le truc de recette le plus gênant, c'est que tu n'as pas entendu parler de ce livre de recettes qui s'appelle « Ma cuisine homosexuelle ».
Ah oui !
Oui, dont je te lis un extrait de la revue de presse. « Vous aurez la possibilité de combler et étonner vos amis, vos amours ou vos amants grâce à un gazpacho, un flan de gel lubrifiant ou un LGBT, langouste, gambasse, bigorne, tourteau. » Bon, c'est des clins d'œil fondamentalement qui se veulent rigolos et militants, mais après j'avoue que le coup du gazpacho, je m'en remets pas. Il y a aussi des recettes à quatre pattes. Sinon, deux trucs que j'aime bien en vrai, pour les gros nulos comme moi, il y a un Tumblr qui s'appelle Couper Foutre, qui est une recette toujours en deux parties, telle que, par exemple, pour la recette de la poêlée de légumes, c'est couper des légumes, foutre dans une poêle. Après, ça a ses limites, parce que, par exemple, yaourt aux fruits maison, c'est couper des fruits, foutre dans un yaourt. Et moi, je suis déjà en train de me dire, quel fruit, quoi, pourquoi, ça rentre pas, comment, au secours, j'appelle ma mère, et par ma mère, entendez Deliveroo. Mais le truc que j'ai trouvé vraiment utile, que j'ai découvert dans la newsletter de Titu Lecoq, de newsletter de Slate, qui est vachement bien, c'est un papier que vous pourrez retrouver sur le site de Simonae et qui s'appelle « La dépression, c'est pas de la tarte, recette pour faciliter le quotidien ». Et ça assume totalement de ne pas être là pour vous dire de mieux manger, de manger des petits haricots verts bio de saison épluchés à la main pour aller mieux. Ce qui est vrai, mais la dépression ou des maladies chroniques similaires, ça affecte parfois énormément l'énergie qu'on a. Et bah, même s'alimenter tout court, ça peut devenir un problème. Donc il faut un peu s'auto-feinter.
Je ne dors plus, je ne mange plus, j'ai maigri, je suis aigri. Je suis malade, je fais plus pipi ni caca, je suis pas vieux mais j'en peux plus.
Alors ça peut paraître idiot, mais par exemple avoir toujours une base de pain, genre même congelé, chez soi, parce que n'importe quel aliment dans du pain, bah, ça fait sandwich au moins. Tout ce qui est one pot pasta, donc fout dans une seule casserole tout pour s'éviter la vaisselle, parce que sinon après tu vas être démotivé par la vaisselle. D'ailleurs ne garder que le minimum de vaisselle dans ses placards, pour ne pas avoir la possibilité d'avoir de la montagne de vaisselle qui s'empile. Voilà, une petite feinte. Ou encore, si t'as les moyens de t'acheter des légumes bio, bah du coup, c'est mieux parce que t'as pas besoin de les éplucher.
Ah.
Voilà, donc on n'est pas sur la start-up nation de la gastronomie, c'est clair, mais des astuces pas bêtes pour la team Xanax. Et vu l'état des troupes, je crois qu'il y a de quoi écrire des bouquins de recettes entiers pour dépressifs, insomniaques, licenciés précaires, mères célibataires et autres angoissés du slip.
Mimi. Mycose.
T'auras remarqué qu'il y a beaucoup de livres de cuisine écrits par de grands chefs et que les grands chefs sont en immense majorité des femmes. Non, je plaisante. Les hommes, bien sûr, en France, les postes de chef sont masculins dans plus de 90% des cas. Et plus largement, sans parler des chefs, 25% des cuisiniers professionnels sont des cuisinières, donc seulement un quart. En plus, rien que le mot cuisinière, c'est pas très heureux quand même comme mot.
Bah, c'est-à-dire que du coup, quand c'est une femme, c'est un objet aussi.
Alors évidemment, à chaque fois, on sort quelques noms de femmes du chapeau. Anne-Sophie Pic, chef étoilée, Hélène Darroze, Amandine Chaigneault. Et la liste s'arrête vite. Le contraste est assez saisissant avec la cuisine dans le cadre familial, dans le quotidien, où il y a plein de chiffres différents. Mais grosso modo, 80% des tâches parentales et domestiques sont assurées par...
des robots.
Par les femmes. Donc, tu as une idée de combien de temps l'on passe à cuisiner en moyenne dans une journée, selon les chiffres d'Ipsos ? Pour une fois, je cite un vrai institut de sondage.
Je dirais trop.
1h22.
Ouais, c'est ce que je dis.
Et c'est très ancien, cette idée que les grands plats, c'est l'apanage des hommes et que la cuisine du quotidien moins valorisée, c'est celle des femmes. À l'origine, la grande cuisine, entre guillemets, elle est commandée dans les cours des rois successifs pour organiser les banquets et elle est commandée à des hommes. Celui que l'on considère comme le premier chef français, il s'appelle Taillevent et il était aussi le premier écuyer de cuisine du roi Charles VI. Et tu sais que Taillevent, c'est le nom d'un resto gastronomique aujourd'hui à Paris.
Mais c'est lié à ce mec.
Ah bah oui, c'est lié, oui, bien sûr.
Pardon, mais sur les notes d'Elo, Charles VI, c'est écrit genre juste 6, quoi, à la normale. même pas l'effort de lâcher un chiffre romain. Louis XIV, tout à l'heure, c'était pareil. Du coup, on dirait juste des gens qui ont pris un pseudo pas original sur Marmiton et qui sont obligés de rajouter un chiffre, tu vois, genre Loulou 47, Louis XIV, Jean-Jacques 75, Charles VI. Bref, pardon, tu disais.
Je te parlais de Taillevent. Non, mais ce que je trouve toujours fou, au-delà des chiffres, c'est à quel point un mec qui fait à manger à sa copine, c'est valorisé. Ah ouais, t'as trop de la chance. Mais il t'a fait à manger, mais c'est trop sexy. C'est vraiment le mec parfait. Garde-le, hein, surtout garde-le. Et toi, c'est cool, parce que dans l'idée, tu vas te faire entretenir, si ton mec sait faire à manger. Ah évidemment, ouais. Si c'est la fille qui cuisine le plus dans le couple, bah personne va faire ce genre de réflexion. Ou alors, il faut qu'elle cuisine sacrément bien.
Ouais, j'avais vu ça dans un spectacle de Florence Foresti.
Florence qui ?
Oui, bah voilà, on a les références.
Oui, j'aime beaucoup, vas-y.
Et j'ai beaucoup aimé cette phrase, elle dit « je suis dégoûtée, j'aurais fait un super papa ». Et parce qu'effectivement, un homme qui amène une gamine avec deux couettes à l'école, tout le monde fait « waouh, elle l'a coiffée !» Alors que toi, tout le monde fait « waouh, elles sont pas symétriques !» Et sur la bouffe, c'est exactement pareil. Donc, c'est « waouh, ton mec sait faire à manger ta gueule !» Voilà, d'autant que moi je sais pas faire, donc bon, pratique.
Mais ce que je trouve trop, c'est que ça existe aussi ce genre de remarque dans tous les milieux, en fait. Même dans les milieux féministes où on a une tendance à vouloir...
Ah ouais ?
Ah vraiment, moi j'ai plein d'amis autour de moi qui font ce genre de réflexion et pourtant, voilà, c'est des gens qui essayent de réfléchir à la cause des femmes. Donc je trouve ça assez drôle. C'est pareil sur les enfants, mais on en reparlera. D'une manière générale, socialement, c'est extrêmement bien vu de savoir faire à manger. Je veux dire que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Si vous dites que vous avez 32 ans, mais que vous continuez à alterner de la junk food avec du poisson surgelé, faites le test, il y aura comme une forme de pitié dans le regard de celui en face. Surtout si vous êtes une fille.
Je ne vois pas de qui tu parles.
Je confirme.
On vous donne d'un capital de sexiness plus important si vous savez faire un curry. Voilà, ne nous mentons pas. C'est comme ça. Bah oui. Après,
moi,
parfois, c'est drôle.
Un disque dur, ça marche pas.
Non, enfin un peu, mais moins. Bien. Après, parfois, c'est drôle. Je me souviens d'une amie il y a quelques années, je sais pas si elle m'a écouté, qui ne savait pas que pour faire cuire un œuf, fallait mettre de l'eau dans une casserole.
Oh, choupette.
Bon, bah, clairement, on a bien rigolé. J'ai aussi en tête une autre pote qui avait cuit le riz à même la casserole, toujours sans eau. Et on a dû jeter
la casserole. Moi aussi, mes amis ne consomment pas assez d'eau, je crois. Mais pas dans le même contexte. C'est marrant, parce que tu vois, pour le coup, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe dans les films. Tu sais, dans le téléfilm où il se passe toujours ça, dans son immense cuisine avec îlot professionnel, l'héroïne passe un coup de fil.
Ouais, je te laisse, Marie-Amélie, là, je dois ranger les courses. Ouais, j'ai pas eu le temps de le faire à cause de mon travail très prenant et de mon collègue méchant.
L'héroïne court à sa voiture récupérer un sac de courses américain en papier craft immense contenant l'intégralité des placards de Maïté.
Oh, j'ai rien à manger.
Une tomate s'en échappe et roule sur le sol, c'est la panique.
C'est la panique.
Heureusement, une main virile ramasse la tomate, prend le sac des bras de l'héroïne.
Oh merci, vous êtes adorable.
La main virile appartient au collègue méchant.
Jean-Jacques ?
En effet, Jean-Jacques est passé jeter un dernier œil à la presse du lendemain, ce qui est méchant, ce qui est cohérent pour un collègue méchant. Mais là, Jean-Jacques propose son aide à la cuisine. Et tandis que l'héroïne foire ses coquillettes à l'eau en sirotant du chardonnay car elle panique, Jean-Jacques réalise une sauce inoubliable à base de 47 légumes dont il connaît le nom car sa grand-mère était cruciverbiste.
Cruciverbiste.
Mais peu importe.
Peu importe.
Bref, la sauce tomate, poivron, courgette, oignon, GHB, gît dans une cuillère en bois. Jean-Jacques doit faire goûter l'héroïne. Cuillère en bois, bouche de l'héroïne, sauce qui coule sur la bouche de l'héroïne. Héros qui essuie tendrement la bouche de l'héroïne. Embrassade.
Oh, Jean-Jacques.
Censure. Fin. Bon, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, tu commandes une pizza et tu l'envoies à la mauvaise adresse parce que t'as pas mis à jour ton appli avec ta nouvelle adresse et que la start-up nation a ses limites. Voilà. Parfois, j'aimerais beaucoup vivre dans un téléfilm M6.
Ceci dit, j'ai lu dans plusieurs articles, je sais pas si c'est vrai, j'ai pas réussi à savoir si c'était vrai, que les acteurs ne mangent et ne boivent pas vraiment sur les tournages. Enfin, en tout cas, pas pendant les prises. Parce que sinon...
sinon, je peux dire que sur les tournages, ils boivent.
Oui, a priori, voilà. Qu'ils mastiquent en vrai, mais qu'ils recrachent derrière, puisque quand tu tournes un film, tu peux tourner des dizaines et des dizaines de fois la même scène, donc tu finirais par avoir un peu trop mangé. Et on a vu tout à l'heure que c'était mal.
Ils doivent avoir un peu des problèmes similaires dans les films porno, du coup.
Je reconfirme.
J'ai une image qui vient de passer. Le même esprit, les acteurs ne fument pas vraiment, ce sont des cigarettes à base d'herbe. Et quand on a l'impression qu'ils picolent un whisky, en fait, c'est un thé glacé. Mm-hmm. Ceci dit, il y a des exceptions, parce que je me souviens avoir interviewé Adèle Exarchopoulos après La vie d'Adèle. Tu te rappelles de ce film ?
Que je n'ai pas vu.
Ah, tu l'as pas vu ?
Et non !
Bah, il faut le voir.
D'accord.
Et je sais pas si tu te rappelles les... Bah non, du coup...
Bah non. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans La vie d'Adèle ?
Il y a beaucoup de scènes avec de la nourriture. C'est quand même une spécialité des films de Kechiche. Il filme toujours les gens
en train de... C'est pas exactement de ça dont on m'a le plus parlé sur ce film, mais ouais.
Oui, mais bon...
Il y a de la nourriture.
Et les pâtes, et puis le kebab qu'elle mange dans la rue, Adèle Exarchopoulos, elle me disait qu'elle le mangeait vraiment. Je sais plus combien elle en avait mangé d'affilée. Il me semble que c'est 8 ou 9 kebabs.
Oh, le paradis.
J'avais lu qu'il trouvait ça très sensuel, très proche de la réalité des acteurs que de les voir réellement manger. Parce qu'à un moment, les vraies questions dans cette émission, à quel moment tu manges avec l'autre ? Au bout de combien de dates ? Et que faire si tu découvres que celui ou celle qui te plaît mange salement ? Je veux dire, la bouche trop ouverte, avec de la sauce justement qui dégouline, complètement avachie, qui fait un... sur le thé ou la soupe, qui mange trop vite, qui est le ok un repas sur deux. Je sais pas, t'as des réponses, Claire ?
J'ai le hoquet dès que je mange du pain. Et d'après ce que tu viens de dire, je vais finir ma vie toute seule avec mon micro-ondes.
Ah, donc c'est toi la personne que l'on peut découvrir un peu. Moi, il y a plein de sons que j'ai du mal à supporter, en fait. Je suis pas misophone, pas à ce point-là, mais vraiment, il y a plein de bruits de bouche que je trouve difficilement supportables. Tu sais, l'espèce de, je sais pas, de rot, là, que tu avales en parlant.
Que tu ravales en parlant.
Voilà. Mm. Les bruits de mastication, de chips qui craquent très fort sous la dent, là. Mm. Les bruits d'avalement de salive, de chewing-gum qui gonfle. Qui explose aussi les chewing-gums, mais bon.
En fait, toi, t'es la meuf casse-boulon.
La vraie question dans le couple, c'est, en réalité, qui fait la vaisselle ? Celui qui a cuisiné ou celui qui n'a pas cuisiné ?
Si on suit la règle du partage des tâches qui vous tient apparemment tellement à cœur.
Ouais, alors que tu vois, dans un pas-couple, la question se pose vachement moins. En revanche, le célibat, c'est le royaume du Tupperware, du coup. Vie amoureuse ratée, financing, la conservation sous vide, since 1972...
Since 1972.
Voilà. En parlant de couple et de bouffe, sachez qu'en préparant cette émission, en parlant peut-être un peu trop fort à la cafette, nous avons recueilli un témoignage d'importance.
Alors quand je fais la cuisine et que j'ai besoin d'oignons, donc pour émincer les oignons, je mets mes doigts sur la partie bombée, et donc avec un couteau, j'émince mes oignons. Et je me suis rendu compte que 2-3-4 jours après leur débat sexuel, une forte odeur d'oignon ressurgissait sur mes doigts après avoir été en contact avec de la cyprine. Et je pense qu'il y a une réaction chimique particulière entre l'oignon et la cyprine. Parce que pendant que j'éminçais les oignons, donc de l'oignon se glissait sous mes ongles. D'accord ? Et en fait, ça restait plusieurs jours sous les ongles, même en se frottant après les mains et tout. À ce point que maintenant, pour émincer des oignons, je me couvre les mains d'un petit sopalin astucieusement plié pour que mes ongles et ma peau de mes doigts ne soient plus en contact avec l'oignon.
Quel témoignage incroyable. Alors sinon, en solution, il y a les oignons surgelés déjà émincés. Ou alors, t'as une autre option qui consiste à se faire faire la bouffe par quelqu'un d'autre. Donc, c'était l'idée d'un,
ton
d'un
mec,
concept.
Donc.
Non, de payer quelqu'un. Alors après, tu peux payer ton mec, démerde-toi. Mais c'était l'idée d'un truc qui s'appelait Cuisiner très particulier. Une boîte montée par un ancien cuistot de Top Chef qui se présentait comme le premier service de chef cuisinier nu à domicile.
Attends, je crois qu'il y a eu un mot en trop.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Chef de cuisinier
oui,
nu.
Oui, il venait à poil sous son petit tablier.
Mais non.
Si, notamment pour les enterrements de vie de jeune fille, des trucs comme ça.
Oh. Ouais,
a priori, ça a foiré, je crois que, en tout cas, le compte Twitter n'est plus actif.
Ouais, tu m'étonnes.
Perso, je peux pas imaginer plus gênant, mais en plus, bon, à la limite, mec, bon courage pour cuisiner un truc chez moi.
Bicrabe,
j'ai
non ?
Du riz, un ketchup McDo, une boîte de pois chiches et un reste de Côte du Rhône de mardi dernier. Amuse-toi bien. En fait, chez moi, c'est pas Top Chef, c'est Koh-Lanta.
Ça, c'est typique, tu sais, de la trentenaire aux horaires décalés qui n'aime pas trop faire les courses. Next profil de frigo, bonjour.
Oui, nous avons Hortense qui nous dit « Alors moi, dans mon frigo, j'ai 3 courgettes bio, des œufs bio, de la confiture framboise faite maison, de la chair à saucisse bio. Que voyez-vous pour moi, madame la voyante ?»
Bruit de frigo qui s'ouvre. Alors ce que je vois pour vous, Hortense, ce sont des enfants qui s'appellent Léon et Constantine, bien habillés, et qui joueront dans votre jardin partagé où vous ferez pousser de la ciboulette et de la coriandre et que vous allez envisager sérieusement d'avoir une poule dans ce même jardin. Parce que vous aurez lu que c'est très pratique, une poule. Et en plus, ça fait des œufs que vous ne mettrez pas au frigo. Je vois aussi une grosse poubelle de tri et une grosse consommation de plastique parce qu'on ne peut pas être parfait, Hortense. Bref, vous êtes bobo. Bienvenue.
Ouais, alors que moi j'aurais dit que la poule n'y avait pas besoin parce qu'ils en avaient déjà une à l'école Montessori des enfants. Mais on a aussi Samia qui demande « Dans mon frigo, moi, il y a du lait de soja, des carottes, des steaks au tofu et beaucoup de cornichons à côté de mes médocs contre les brûlures d'estomac. Qu'est-ce que vous voyez dans mon futur ?»
Un peu la même chose, non.
Alors Samia, je vois dans votre frigo des troubles de l'estomac qui vous laissent enfin en paix. Je vois des tisanes digestion ingérées en grande quantité. Ah mais je vous vois aussi fumer. La dissonance cognitive. Vous serez dans l'air du temps, ne vous inquiétez pas, un boulot dont vous partirez en burn-out, un premier enfant à 36 ans, un deuxième à 40, un divorce à 42. La vie s'annonce mouvementée, mais au moins vous n'aurez plus de ballonnement. Vous avez bien fait de dire au revoir au gluten quand vous en aviez 31, même si vous avez mis 2 ans à trouver que les pâtes au maïs, ça avait à peu près le même goût que les autres pâtes.
Ouah, tu lis hyper bien dans les frigos.
Attends, en vrai, je reprends une voie normale parce que le bio, la tendance vegan, le halal aussi, manger cachère, manger local, tout ça, ce sont des tendances plus ou moins actuelles de nos manières de manger qui veulent dire beaucoup de nous. Alors évidemment, c'est aussi une question de portefeuille. Il y a largement plus de personnes obèses parmi ceux qui ne gagnent pas beaucoup d'argent par mois, de priorité aussi. C'est sûr que quand tu sais pas si tu vas pouvoir payer ton chauffage, bon bah tu fais tes courses à Lidl et tu cherches pas forcément à savoir d'où viennent les légumes que tu manges parce que ta priorité, c'est que ce soit pas cher. Ça dépend aussi de ton lieu de vie. À la campagne, on peut manger les légumes de son propre potager. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont un potager. On a accès à une nourriture de meilleure qualité et moins chère que dans les grandes villes. Ça n'a rien à voir, même c'est quand même du simple au double, voire du simple au triple parfois. Donc évidemment, par rapport à quand vous habitez en ville, c'est plus difficile de bien manger. C'est politique ce qu'on mange, Claire. Même si bon, tu peux être de gauche et te faire livrer des sushis 2 fois par semaine.
Ouais, tu peux, tu crois ? Parce qu'effectivement, c'est hyper politique ce que tu cuisines. T'as d'ailleurs, il y a une option, l'option vraiment totale, full cash, start-up nation, claquage de pognon, qui consiste à se faire livrer des box avec chaque produit d'une recette, mais carrément pré-découpé. Donc genre, t'as déjà les courgettes fraîches en petits carrés, mais c'est toi qui les mets dans le machin pour te donner l'impression de faire la cuisine.
Dans le machin ?
Oui, dans le machin, la poêle, voilà. Oh, mon merde. Mais ça te donne quand même l'impression de faire la popote tout en menant ta vie de travailleur, travailleuse, slash parent parfait, slash citoyen engagé, slash super pas toujours dispo, slash enfant qui prend des nouvelles de ses parents, slash amant de qualité, slash il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. En vrai, on comprend bien l'idée, qui est de ne pas passer plus de 30 minutes en cuisine tout en ayant de la bouffe relativement saine et bonne, mais C'est probablement pratique, mais déjà, ça coûte un rein. Donc on n'aura jamais été autant team. Le temps, c'est littéralement de l'argent. Et toi qui galères avec tes deux jobs de mère célibataire, c'est pas toi qui aurais les moyens de te faire éplucher tes courgettes et de gagner du temps. Pour toi, pire, toi tu prendras un troisième job, celui d'éplucher les courgettes des autres, en auto-entrepreneuriat mort derrière. Et hop, en fait, retour à la grande époque de la boniche. Et puis, on est encore en train de faussement résoudre le problème. On est encore en train d'optimiser le temps, de s'auto-optimiser, de se rentabiliser. Alors que la cuisine, je suis nulle, mais j'aime bien ça, la cuisine. C'est limite un peu configuré pour perdre du temps. Parce qu'il n'y a que là, les mains dans les poireaux et la tête dans la béchamel, n'y voyez aucune allégorie, qu'on est bien obligé, on est bien obligé là, d'arrêter de remplir le tableau Excel à 8 onglets de nos vies, de se laisser papoter, de laisser nos cerveaux se débrancher, de chanter, de rêver. À force de s'auto-startuper de la courgette ubérisée, c'est certain, on va arrêter de rêver.
Ce que tu dis, Claire, c'est beau comme une recette de Maïté.
Tiens, dans un bouquin qui s'appelle « À la bonne franquette », qui est un dico des expressions liées à la cuisine, j'ai cherché l'origine de l'expression « passer à la casserole ». Et bien, à l'origine, elle est plutôt synonyme de « être tué ».
Être tué ?
Bah oui, en fait, à l'origine, ça voulait passer à la casserole, ça voulait dire se faire tuer, puisque le fond d'une casserole, c'est là où finissent les volailles. Et ensuite, c'est après qu'à la fin du 19e siècle, elle devient synonyme de passer un mauvais moment, mais plutôt un mauvais moment, genre un examen. Et ils expliquent qu'à partir de 1906, elle prend une connotation sexuelle, synonyme de violence sexuelle, au début. Et puis petit à petit, et comment dire que c'est pas anodin, on passe de l'idée de viol à un synonyme d'un rapport sexuel pas franchement désiré, ennuyeux, disons, accepté par sens du sacrifice ou du devoir, sans plaisir pour les femmes. L'écrivain Alphonse Boudard utilise même le verbe « casseroler » dans le cadre d'un rapport sexuel sans préliminaire. C'est dingue à quel point on est pile dans les questionnements autour de la culture du viol, de la notion de viol conjugal et des questionnements autour de ce qu'on appelle la zone grise du consentement. Je résume parce que le terme lui-même de zone grise est sujet à des débats passionnants. En tout cas, cette expression « passer à la casserole » porte en elle tout le rapport des femmes aux actes sexuels subis. C'est fou, elle porte en elle la normalisation de ça, en fait. Tu vois, on a trouvé une expression un peu rigolote et un truc pas rigolo du tout. Donc tu vois, Hello, faut vraiment que tu me laisses utiliser un micro-ondes. Je te ferai des trucs sympas, un sauté de patriarcat sur son lit de poulet fricassé, une paupiette de Vauquier fourrée au marron de Front National, des brochettes de grévistes à la sauce macronie.
Ou les bonnes vieilles frites de papa.
Ouais, c'est bien les frites.
Ouais, les frites, hein, franchement. Ouais. Mais les frites au micro-ondes, vraiment ?
Non. Oh, j'ai fait ça une fois. Ouais, je me respecte pas.
Mais c'était bon ?
Non.
Salut,
alors
Claire
qu'une bonne grosse aubergine au barbecue. Oh, gênant. Salut, Elodie Font.
Salut, Jean-Jacques.
Salut, mes petits cordons bleus.
On vous retrouve dans 15 jours, dans 3 semaines d'ailleurs, je crois, puisque c'est le mois de mai et c'est pont.
Ah, peut-être.
On vous retrouve bientôt, en tout cas, Mycos The Night sur Arte Radio.
Et... en partenariat avec Brain Magazine.
Salut.
Salut.
T'étais où hier soir ? Dans la soirée, je t'ai pas vu.
Ah, j'étais dans la cuisine. Ah bah oui. Ah bah, contre-soirée cuisine. Bah, la cuisine a plus ou moins, le concept de cuisine a plus ou moins été inventé pour la contre-soirée. C'est l'endroit où se passent les meilleurs trucs.
Il s'est passé quoi, alors ?
Tu veux pas ça ?
Arte Radio.com.